L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Voilà, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour poursuivre cette série sur l'Évangile pour le couple.
Et donc nous allons entamer un thème important, ce qu'on a appelé différencier les œuvres de Dieu et les œuvres pour Dieu dans la vie de couple, dans la vie de famille. Et pour cela, nous avons retenu un texte dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7. Donc, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors je leur dirai en face « Jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà, c'est une parole difficile hein, à entendre, encore une fois. Et là, on va encore essayer, Maud, de se laisser bousculer par le Seigneur.
Voilà, je pense que la question que pose le Seigneur, c'est finalement, qu'est-ce qu'on a fait de ce nom du Seigneur qu'on a utilisé pour faire des tas de choses, pour prophétiser, pour chasser les démons, pour faire des miracles. Mais déjà, si on arrivait à faire tout ça, je crois que ce serait déjà formidable. Eh bien non. Le Seigneur nous dit, attention, ce n'est pas tellement les œuvres que je veux regarder, mais comment est-ce que vous discernez si c'est vraiment ma volonté ? Puisque le début du texte nous reprend bien la question fondamentale de Jésus. C'est en faisant la volonté de mon Père que vous entrez dans le royaume des cieux. Et cette volonté, eh bien, c'est pas évident pour nous de savoir où elle se trouve dans notre vie. Qu'est-ce qui est la volonté du Père ? Qu'est-ce qui correspond à son désir d'amour pour nous ?
Et souvent, on peut être amené dans l'Église, dans notre vie de foi, même par générosité, de faire des œuvres pour Dieu. Ah bah tiens, pour Dieu, je vais faire ceci, je vais prendre tel engagement, ça va lui faire plaisir, etc. Et souvent, c'est vrai que c'est une inversion, c'est-à-dire que nous sommes appelés par le Seigneur. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Et c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous conduit. Et donc, nous avons vraiment à essayer de discerner quel est l'appel de Dieu en nos vies personnelles, en nos vies conjugales. Quel service nous avons à donner à nos enfants. C'est toute une question de discernement.
Voilà, alors c'est pas facile parce que comment est-ce qu'on va discerner qu'est-ce qui correspond à la volonté du Père tout en sachant qu'il nous a placés dans le monde mais que nous ne sommes pas du monde. Donc déjà cette distinction fait que nous sommes obligés de nous poser la question, est-ce que ce que je voudrais faire, mettre en œuvre, organiser, etc., ça correspond aux visions du monde ou est-ce que ça correspond aux visions de Dieu ? Je suis bien incarné, j'ai bien des choix, des décisions à prendre, mais comment est-ce que je vais ordonner ça au Christ ?
Et c'est pour cela que ce discernement de comment ordonner au Christ et quel choix poser, c'est pour ça que les apôtres nous avertissent en nous disant attention aux faux docteurs, attention aux pseudo-sciences, attention aux vaines sagesses de ce monde. Et c'est vrai qu'il y a des choses bien sûr très bénéfiques dans ce monde, mais que nous avons en tant que chrétiens à entendre une loi qui est supérieure. Auxquelles sont ordonnées toutes les sciences et toutes les sagesses de ce monde, qui peuvent parfois être contraires à ces sagesses ou à ces sciences de ce monde. Donc nous avons vraiment à nous mettre à l'écoute du Père pour savoir, pour être enseignés par lui, pour qu'il nous bouscule, pour qu'il nous conduise à nous convertir, pour saisir quelles sont vraiment ses bénédictions, ses attentes pour nos vies.
Voilà, lors d'une précédente émission, nous parlions à la fois de l'importance de l'Esprit Saint et de les laisser envahir notre vie. C'est vrai que pour discerner la volonté du Père, il faut apprendre à discerner les appels de l'Esprit. C'est-à-dire qu'un appel de l'Esprit, ça peut passer par telle ou telle personne qui nous interpelle en disant « Mais toi, tu voudrais pas faire ça, tu voudrais pas, etc. » Et l'appel de l'Esprit, pour le discerner, il faut évidemment qu'on ait fait un travail en amont, en couple, qui est vraiment de discerner quel est notre appel spécifique de couple. Où est-ce que le Seigneur souhaite que nous apportions la pierre à l'Église, notre pierre pour construire l'Église, et quelle est la couleur de cette pierre? Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un exercice auquel, c'est vrai qu'on aime beaucoup faire avec les couples, notamment ceux qui se préparent au mariage. Quand on est appelé au mariage ensemble, à vivre ça sous le regard de Dieu, finalement, l'Église nous demande de travailler sur un projet de vie. Et ce projet de vie, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit discerner à deux. Qu'est-ce que c'est le projet de vie que le Seigneur nous propose? Pas simplement fonder une famille, avoir des enfants, etc. Mais non, parce qu'il peut y avoir d'autres choses qui interviennent dans la vie et qui font que ce projet va prendre d'autres couleurs. Mais plus profondément, en couple, nous avons à recevoir notre charisme spécifique. Voilà, toi, ta place dans l'Église, c'est le service des pauvres, c'est l'accueil de l'étranger, c'est l'ouverture à l'enfant, c'est l'accueil de l'enfant handicapé, c'est l'investissement dans la vie professionnelle, c'est l'investissement dans la vie politique, civique, peu importe après les déclinaisons. Mais l'axe fondamental, nous devons apprendre à le discerner ensemble. Quelle est notre couleur spécifique de couple? Qu'est-ce que le Seigneur nous donne un peu comme, on pourrait dire Alex, le nom nouveau? À quoi il nous appelle?
Alors, c'est là où c'est toute la question du discernement. Et là, nos frères jésuites ont apporté, avec tous les frères d'Ignace et toute l'expérience spirituelle et d'enseignement des jésuites, toute la question des exercices spirituels, dont un des éléments, et beaucoup d'éléments, mais justement d'essayer de goûter, de discerner ce qui, face à telle ou telle alternative, va être dans mon cœur œuvre de consolation, de désolation, de goûter les différents plats dans son cœur pour voir vraiment là où le Seigneur m'appelle, et ce qui sera consolation pour l'un sera peut-être désolation pour l'autre, parce que chacun, nous avons une pierre blanche, particulière, singulière, sur lequel le Seigneur effectivement a écrit notre nom. Nous recevions, pas plus tard qu'hier, un jeune couple dont elle confesse la foi chrétienne, et lui l'a confessé, mais l'a complètement rejeté, etc. Mais il mène un chemin très très honnête, et puis pour se préparer, elle dit, bon, écoute, moi je vais faire une séance de une retraite d'exercice de discernement à Saint-Ignace, même si j'ai pas la foi, je vais suivre un peu. Et au fur et à mesure, il a, au travers de cet exercice, en essayant de voir vraiment ce qui habite son cœur, eh bien, au fur et à mesure, il a vu beaucoup plus des choses dans sa vie émerger, et au travers même de cet exercice de discernement, il a, au travers de cela, redécouvert, on était émerveillés hier à l'entendre, redécouvert des perles de l'Évangile et de la révélation. Bon, il était là même là hier à nous dire, mais finalement, tout l'Évangile, je me rends compte de toute son immense cohérence. Après, moi, lui, il disait, là où je bute, c'est Jésus, c'est simplement un prophète, ou c'est, il est ressuscité. Ouais, donc, il butait encore là-dessus. Mais pour dire combien cet exercice de discernement, se mettre à l'écoute de Dieu, de l'Esprit, etc., eh bien, porter du fruit dans sa propre vie.
Oui, et puis il sentait très bien que ce travail allait forcément modifier ses choix de vie. Et il nous a dit, mais au vu de cette semaine de discernement et de relecture de ce que je sens dans mon cœur, il y a des choses qui jaillissent comme étant importantes pour moi, que je n'avais jamais vues. Et des points de blocage sur lesquels je sens qu'il faut que je travaille parce que je résiste encore. Et il nous faisait part aussi de cet émerveillement de tout ce qu'il découvrait, et à la fois cette appréhension, mais où est-ce que ça va m'entraîner? Et c'est vrai que quand on fait ce travail, Alex, de découverte du charisme spécifique d'un couple, qui peut être donné dans la durée, c'est-à-dire que c'est pas forcément au moment des fiançailles, même s'il y a certainement une vision un peu prophétique à ce moment-là, il y a tout au long de la vie de couple des moments où on sent comme ça se confirmer un charisme, un appel spécifique.
Se préciser, émerger, etc. Et c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Enfin, nous, on est toujours plein d'actions de grâce quand on voit ce travail de l'Esprit Saint qui se dessine et que le couple rentre dans ce dessin, dans cette promesse particulier, singulier, ce charisme qui lui est propre.
Voilà, il sera plus facile à ce moment-là pour le couple de discerner ce qui est une œuvre pour Dieu ou une œuvre de Dieu, quand ça va rentrer en écho avec un appel beaucoup plus profond qui généralement correspond à ce qu'on appelle un charisme, c'est-à-dire aussi un talent, c'est aussi une habilité particulière,
un don de Dieu,
voilà, qui à l'intérieur duquel va se placer un appel.
C'est pour ça que la parole de l'apôtre est si importante. Quand il invoque, hein, on l'avait repris dans une précédente émission, parce qu'elle avait été citée aussi par Jean-Paul II, qu'il daigne vous armer de puissance par son Esprit Saint, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ et vous entrerez par votre plénitude dans la plénitude de Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est que si nous discernons les œuvres de Dieu en nos vies, les appels de Dieu dans nos vies, alors nous allons rentrer dans cette plénitude qui surpasse nos attentes les plus folles. Et c'est ça qui est toujours émerveillant de voir combien le Seigneur veut nous combler bien au-delà de nos propres attentes quand nous rentrons dans son appel. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, nous continuons notre cheminement en essayant de mieux discerner et de comprendre la différence très importante dans nos vies de chrétiens, de baptisés, la différence entre les œuvres de Dieu et les œuvres pour Dieu, qui est l'appel de Dieu en nos vies. Maud, il y a un évangile aussi qu'on peut évoquer, on va pas le lire, mais on va essayer de l'évoquer, de le raconter.
Voilà, c'est un évangile qui nous a beaucoup éclairé et c'est vrai nous a beaucoup interrogé. C'est l'évangile de la pêche miraculeuse. Parce que, au-delà de, bon, je peux pas raconter toute l'histoire, mais simplement Jésus donc arrive au bord du lac, ressuscité, et les apôtres ont pêché toute la nuit pour essayer de prendre du poisson. Et ils n'ont rien pris. Et Jésus les interpelle du rivage et leur dit, mais pêchez de l'autre côté de la barque. Et Pierre, bon, un peu lassé de la nuit de pêche inutile, répond, bah, sur ta parole, nous allons jeter les filets. Et ils jettent les filets et ils sont débordants de poissons. Et ils ont tellement de mal à les ramener à terre qu'il faut appeler d'autres barques pour les aider. Donc il y a comme une surabondance tout d'un coup, alors qu'il y a eu une nuit d'aridité, si je puis dire. Et c'est vrai que cet évangile nous a interpellés par rapport justement au discernement de nos engagements, de tout ce qu'on fait pour les autres, pour l'Église, etc. De dire, est-ce que finalement, si on fait un mauvais choix et qu'on n'écoute pas le Seigneur, alors on va pêcher dans l'aridité et on n'aura pas de fruits. Et à ce moment-là, on va se lasser. On va trouver même que c'est tellement aride que ça nous dessèche, que ça nous irrite, que vraiment il y a une sorte de, enfin je dirais, d'amertume qui va se dégager de nos cœurs. Alors que quand nous sommes dociles à l'esprit, que nous acceptons de pécher de l'autre côté, c'est-à-dire de nous y prendre autrement, de voir les choses selon le Seigneur, eh bien là, il y a surabondance. Donc je veux dire, bien sûr, c'est pas toujours aussi clair et lumineux dans nos vies, mais si jamais nous prenons la peine de voir quels sont les fruits de nos actions, de nos décisions, de nos engagements, lucidement, en vérité, sans fausse pudeur, alors on peut rentrer aussi dans une clé de lecture qui va authentifier qu'on est dans une œuvre de Dieu ou dans une œuvre pour Dieu.
Voilà, pouvoir effectivement discerner a priori et pouvoir aussi discerner a posteriori à partir des fruits, des œuvres, des engagements, etc. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que on se rend bien compte l'énergie qu'ont déployée toute la nuit les apôtres pour ne rien pécher. Et puis là, un filet qui est lancé, et c'est la surabondance. Il en est de même, quand tu parlais, Maud, je pensais également à la multiplication des pains. Il a fallu à un moment, effectivement, pour nourrir cette multitude, il a fallu qu'il y ait un petit garçon qui apporte son pique-nique avec ses 5 pains et ses 2 poissons, et ça a permis de nourrir la multitude. C'est-à-dire que d'apporter les 5 pains et 2 poissons, c'était essentiel. C'est-à-dire que Jésus a besoin, à un moment, qu'on apporte un petit minimum. Il a fallu que Pierre dise oui à Jésus pour dire, bah oui, je jette les filets. Il ne pouvait pas y avoir de pêche miraculeuse si jamais Pierre n'adhérait pas, parfois, à l'invitation de Jésus. Et voilà, et c'est deux évangiles qui sont importants parce que vraiment qu'on essaye de vraiment de répondre à l'appel de Jésus de manière authentique, discernée. Alors effectivement, le Seigneur peut faire des merveilles bien au-delà de ce que nous attendons. Et c'est vrai par rapport à notre vie familiale, conjugale.
Oui, alors il y a aussi le discernement par les fruits intérieurs que cela porte. Si on est dans l'Esprit Saint, si on est dans l'œuvre de Dieu et pas pour Dieu, c'est-à-dire que c'est lui qui a l'initiative, on va dans nos vies concrètement expérimenter que cet engagement, cette action, cette œuvre, cette énergie qu'on met au service du Seigneur va produire en nous plus de charité, plus de joie, plus de paix.
C'est l'épître aux Galates, Maud.
Voilà.
Où Paul souligne, pour nous aider,
le fruit de l'esprit.
Quels sont le fruit de l'esprit?
Charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et puis je pense que la liste, on pourrait la poursuivre. Mais ça veut dire que pour lui, le plus grand fruit, pour Paul, le plus grand fruit de l'esprit, c'est d'abord la foi, l'espérance et la charité, et parmi elles, la charité. C'est-à-dire que plus je vais me donner, et plus je vais avoir envie de me donner, et plus la charité va déborder. Alors que si je suis dans une œuvre qui n'est pas de Dieu, qui est pour Dieu, plus je vais me donner, plus ça va m'épuiser, plus ça va me crisper, ça va m'irriter, je vais en faire mon affaire, je vais me l'approprier, et je sors des chemins du Seigneur.
Voilà, alors c'est vrai que tout ce travail-là demande tout un travail, ça se fait pas d'un claquement de doigts, c'est un travail, il faut traverser l'épaisseur de notre humanité, de notre péché, etc. Et puis c'est très souvent à tâtons et on se casse la bégure, et etc. Tel ou tel engagement, combien d'engagements que nous avons pris, effectivement, à des moments, on s'est rendu compte que, il faut pouvoir discerner les fruits, ils peuvent être subtils, etc. Mais parfois c'est un long tâtonnement, c'est un long enseignement que le Seigneur nous prodigue par la vie la plus concrète.
Voilà, mais bien sûr, ça ne veut pas dire que tout porte un fruit immédiat. Il y a un travail aussi de patience vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres.
Ça passe par l'expérience de la croix.
Ça passe parfois par la persévérance aussi.
L'hérédité.
Mais en ce qui est certain, c'est que dans le fond de notre cœur, on doit sentir cette paix et cet encouragement à poursuivre. S'il n'y a pas cette paix et que ça laisse la place à de l'angoisse, à de l'irritation, à de l'agressivité, alors c'est sûr qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'Esprit Saint et qu'on est en train de s'égarer ou de partir dans une autre façon de gérer les choses. On se les approprie, on les prend sur nous, et évidemment à ce moment-là c'est lourd, c'est pesant, et ça mène à cette agitation que dénonçait Jésus quand il parlait de Marthe.
Mais chose importante, c'est que ce travail ne peut pas se faire sans un travail de conversion. C'est là encore la parole dans l'évangile de Jean. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire que pour qu'effectivement il y ait un fruit de bénédiction dans nos vies, dans nos œuvres, dans nos engagements, il y est associé un travail de conversion. De conversion personnelle, de conversion conjugale, que nous avons à mener ensemble. C'est incontournable.
Voilà, mais c'est vrai que ça nous demande de progresser dans une écoute aussi de notre cœur profond. C'est-à-dire qu'un travail de conversion, même s'il est éprouvant, ne nous met pas dans une situation où on est vraiment mal à l'aise. Et je me souviens de ces difficultés qu'on a pu traverser quand on était justement dans ces discernements. C'est vrai qu'il faut être vigilant à ces situations où on n'est pas à l'aise, où il y a quelque chose qui nous dit que ça va pas. Et au lieu de continuer à foncer tête baissée, il faut là s'appuyer sur la miséricorde de Dieu pour lui demander de venir nous pacifier et nous confirmer ou nous infirmer. Mais se soumettre aussi à ce discernement que nous sentons. Parce que si on n'y est pas docile, on peut toujours pester et râler que cet engagement nous prend trop, ceci, cela, nous épuise.
Voilà. Puis il faut bien prendre acte qu'on est aussi pécheur et qu'on a besoin de sa miséricorde. Et c'est elle aussi, à des moments, si jamais on s'est trompé, si jamais on a fait de plus ou moins grandes erreurs, eh bien la miséricorde de Dieu est là. Et c'est la source de cette miséricorde qui nous donne l'espérance. Là encore, l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, elle est très claire, c'est son abondante miséricorde qui nous donne l'espérance. Et pour avoir connu l'épreuve, dit Paul, il vient au secours des éprouvés. Donc le Seigneur nous rejoint dans ces difficultés qui vraiment, souvent, sont vraiment douloureuses pour nous. Et c'est pour cela encore, autre vertu, importante, la vertu de patience, nous armer de patience envers nous-mêmes. Prenez patience, affermissez votre cœur, dit l'apôtre. Joignez la constance à votre tempérance. Voilà. Donc effectivement, ce travail-là, il doit aussi s'inscrire dans la durée, dans la confiance, sachant qu'au fur et à mesure, le Seigneur nous travaille, nous pétrit. Et c'est un travail qui rejoint, je dirais, le plus concret de notre vie personnelle, conjugale, familiale.
Voilà, je pense que sur ces questions-là aussi, on peut essayer de penser à ne pas être dénué d'humour, parce qu'il faut garder une certaine distance et parfois rire un peu de soi-même quand on s'est laissé piéger dans quelque chose qui convient pas du tout. Et on honore nos engagements, mais on sent que c'est pas du tout là qu'on est appelé, qu'on n'a pas forcément de qualité spécifique pour ça, ou qu'au contraire ça nous disperse par rapport à nos engagements premiers qu'on a discernés et qu'on veut remettre au goût du jour. Donc ça nous empêche pas aussi un peu de temps en temps de rire de nous-mêmes.
Voilà, absolument. Mais à des moments, moi je pense à des choses concrètes par rapport à des discernements, accompagner enfin nos enfants sur les orientations et tout. Nous, avec lui, il y avait des choses qui paraissaient absolument évidentes, sur lesquelles on s'est fixé, parce que ça paraissait vraiment même l'appel de Dieu, etc. Et puis, c'était pas du tout ça. Et que finalement, c'était un autre chemin qui attendait cet enfant, et qui apparaît d'un chemin de bénédiction. Et donc, à un moment, il faut vraiment faire confiance que le Seigneur, quand nous avons confié au Seigneur toute notre vie, et qu'on essaye de bâtir toute notre vie sur lui, eh bien, il nous conduit au-delà de ce que nous pouvons percevoir, connaître, apprécier, etc. Et parfois, effectivement, les chemins sont mystérieux, et au travers de ces chemins mystérieux, c'est souvent des chemins de conversion sur lesquels qui n'étaient pas du tout prévus.
Et le Seigneur nous appelle à la réalisation de cette promesse qui sont dans ces quelques phrases de l'apôtre Paul. Nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de Dieu. Vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur qui lui plaise en tout. Vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu.
Voilà, vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu. Voilà, c'est toute la bénédiction qu'on vous souhaite. Soyez bénis et à la semaine prochaine.
The intimate friendship of the Holy Spirit. May the grace